Chapitre 3, la fatalité, les Tuileries, les quatre bougies. Gilbert suivit son guide, qui le précédait à 20 pas de distance à peu près, jusqu'à la moitié de la montée. Là, comme on se trouvait en face d'une grande et belle maison, celui qui marchait le premier tira une clé de la poche et ouvrit une petite porte destinée à donner passage au maître de cette maison quand celui-ci voulait entrer ou sortir sans mettre ses domestiques dans la confidence de sa rentrée ou de sa sortie. Il laissa la porte entrebâillée, ce qui signifiait aussi clairement que possible que le premier entré invitait son compagnon de route à le suivre. Gilbert entra et repoussa doucement la porte qui tourna silencieusement sur ses gonds et se referma sans qu'on entendît claquer le pêne. Une pareille serrure eût fait l'admiration de Maître Gamin. Une fois entré, Gilbert se trouva dans un corridor à la double muraille duquel était incrustée à hauteur d'homme, c'est-à-dire de manière à ce que l'œil ne perdît aucun de leurs merveilleux détails, des panneaux de bronze moulés sur ceux dont Ghiberti a enrichi la porte du baptistère de Florence. Les pieds s'enfonçaient dans un moelleux tapis de Turquie, une porte était ouverte à gauche. Gilbert pensa que c'était à son intention, encore que cette porte était ouverte, et entra dans un salon tendu de satin de l'Inde avec des meubles de la même étoffe que la tapisserie. Un de ces oiseaux fantastiques, comme peignent ou en brode les Chinois, couvrait le plafond de ses ailes d'or et d'azur et soutenait entre ses serres le lustre qui, avec des candélabres d'un travail magnifique, représentait des touffes de lys servaient à éclairer le salon. Un seul tableau ornait ce salon et faisait pendant à la glace de la cheminée, il représentait une Vierge de Raphaël. Gilbert était occupé à admirer ce chef-d'œuvre lorsqu'il entendit, ou plutôt lorsqu'il devina qu'une porte s'ouvrait derrière lui. Il se retourna et reconnut Cagliostro sortant d'une espèce de cabinet de toilette. Un instant lui avait suffi pour effacer les souillures de ses bras et de son visage, pour donner à ses cheveux, encore noirs, le tour le plus aristocratique et pour changer complètement d'habit. Ce n'était plus l'ouvrier aux mains noires, aux cheveux plats, aux chaussures souillées de boue, à la culotte de velours grossière et à la chemise de toile écrue. C'était le seigneur élégant que deux fois déjà nous avons présenté à nos lecteurs, dans Joseph Balsamo d'abord, ensuite dans le collier de la reine. Son costume, couvert de broderies, ses mains étincelantes de diamants, contrastaient avec le costume noir de Gilbert et le simple anneau d'or présent de Washington qu'il portait au doigt. Cagliostro s'avança, la figure ouverte et riante, il tendit ses bras à Gilbert. Gilbert s'y jeta. « Cher maître !» s'écria-t-il. « Oh, un instant !» dit en riant Cagliostro. « Vous avez fait, mon cher Gilbert, depuis que nous nous sommes quittés, de tels progrès, en philosophie surtout, que c'est vous aujourd'hui qui êtes le maître et moi qui suis à peine digne d'être l'écolier. » « Merci du compliment, dit Gilbert, mais en supposant que j'eusse fait de pareils progrès, comment le savez-vous? Il y a 8 ans que nous ne nous sommes vus. Croyez-vous donc, mon cher docteur, que vous soyez de ces hommes qu'on ignore parce qu'on cesse de les voir? Je ne vous ai pas vu depuis 8 ans, c'est vrai, mais depuis 8 ans, je pourrais presque dire, jour par jour, ce que vous avez fait. Oh, par exemple, doutez-vous donc toujours de ma double vue? Vous savez que je suis mathématicien, c'est-à-dire incrédule. Voyons donc alors, vous êtes venu une première fois en France, rappelé par vos affaires de famille. Vos affaires de famille ne me regardent pas, et par conséquent... Non pas, fit Gilbert, croyant embarrassé Cagliostro. Dites, cher maître. Eh bien, cette fois, il s'agissait pour vous de vous occuper de l'éducation de votre fils, Sébastien, de les mettre en pension dans une petite ville à 18 ou 20 lieues de Paris et de régler vos affaires avec votre fermier, un brave homme que vous retenez à Paris, bien contre son gré, et qui, pour 1000 raisons, aurait grand besoin d'être chez sa femme. En vérité, mon maître, vous êtes prodigieux. Oh, attendez donc. La seconde fois, vous êtes revenu en France parce que les affaires politiques vous y ramenaient, comme elles y ramènent d'ailleurs bien d'autres. Puis vous aviez fait certaines brochures que vous aviez envoyées au roi Louis XVI, et comme il y a encore un peu du vieil homme en vous, comme vous êtes plus orgueilleux de l'approbation d'un roi que vous ne le seriez peut-être de celle de mon prédécesseur en éducation près de vous, de Jean-Jacques Rousseau, qui serait autre chose qu'un roi cependant s'il vivait encore, Vous étiez désireux de savoir ce que pensait du docteur Gilbert, le petit-fils de Louis XIV, d'Henri IV et de Saint-Louis. Par malheur, il existait une vieille petite affaire à laquelle vous n'aviez pas songé et à laquelle, cependant, j'ai dû de vous trouver un beau jour, tout sanglant, la poitrine trouée d'une balle dans une grotte des îles Açores, où mon bâtiment faisait relâche par hasard. Cette petite affaire concernait mademoiselle André de Tavernay, devenue comtesse de Charny, en tout bien tout honneur et pour rendre service à la reine. Or, comme la reine n'avait rien à refuser à la femme qui avait épousé le comte de Charny, la reine demanda et obtint à votre intention une lettre de cachet. Vous fûtes arrêté sur la route du Havre à Paris et conduit à la Bastille, où vous seriez encore, cher docteur, si le peuple un jour ne l'avait renversé d'un revers de sa main. Aussi, oh, en bon royaliste que vous êtes, mon cher Gilbert, vous vous êtes rallié au roi, dont vous voici le médecin par quartier. Hier, ou plutôt ce matin, vous avez puissamment contribué au salut de la famille royale en courant réveiller ce bon Lafayette qui dormait du sommeil du juste, et tout à l'heure, quand vous m'avez vu, croyant que la reine, qui, soit dit entre parenthèses, mon cher Gilbert, vous déteste, était menacé, vous vous apprêtiez à faire à votre souveraine un rempart de votre corps. Est-ce bien cela? Et j'oubliais quelques particularités de peu d'importance, comme une séance de magnétisme en présence du roi, le retrait de certaines cassettes de certaines mains qui s'en étaient emparées par le ministère d'un certain pas de loup. Voyons, dites, si j'ai commis une erreur ou un oubli, je suis prêt à faire amende honorable. Gilbert était demeuré stupéfait devant cet homme singulier qui savait si bien préparer ses moyens d'effet que celui sur lequel il opérait était tenté de croire que, semblable à Dieu, il avait le don d'embrasser à la fois l'ensemble du monde et ses détails et de lire dans le cœur des hommes. « Oui, c'est bien cela, dit-il. Vous êtes toujours le magicien, le sorcier, l'enchanteur Cagliostro. » Cagliostro sourit avec satisfaction. Il était évident qu'il était fier d'avoir produit sur Gilbert l'impression que, malgré lui, Gilbert laissait paraître sur son visage. Gilbert continua. « Et maintenant, dit-il, comme je vous aime, certes autant que vous m'aimez, mon cher maître, et que mon désir de savoir ce que vous êtes devenu depuis notre séparation est au moins aussi grand que celui qui vous a fait vous informer de ce que j'étais devenu moi-même, voulez-vous me dire, s'il n'y a pas d'indiscrétion dans ma demande, en quel lieu du monde vous avez répandu votre génie et exercé votre pouvoir ?» Cagliostro sourit. « Oh, moi, dit-il, j'ai fait comme vous, j'ai vu des rois, beaucoup même, mais dans un autre but. Vous vous approchez d'eux pour les soutenir, moi, je m'approche d'eux pour les renverser. Vous essayez de faire un roi constitutionnel, et vous n'y arriverez pas. Moi, je fais des empereurs, des rois, des princes philosophes, et j'y arrive. » « Ah, vraiment ?» interrompit Gilbert d'un air de doute. « Parfaitement. Il est vrai qu'ils avaient été admirablement préparés par Voltaire, d'Alembert et Diderot, ces nouveaux mésances, ces sublimes contempteurs des dieux, et aussi par l'exemple de ce cher roi Frédéric que nous avons eu le malheur de perdre. Mais enfin, vous le savez, excepté ceux qui ne meurent pas, comme moi et le comte de Saint-Germain, nous sommes tous mortels. Tant il y a que la reine est belle, mon cher Gilbert, et qu'elle recrute des soldats qui combattent contre eux-mêmes, des rois qui poussent au renversement un trône plus fort que les Boniface XIII, les Clément VIII et les Borgia n'ont jamais poussé au renversement de l'autel. Ainsi, nous avons d'abord l'empereur Joseph II, le frère de notre bien-aimée reine, qui supprime les trois quarts des monastères, qui s'empare des biens ecclésiastiques, qui chasse de leurs cellules jusqu'aux Carmélites et qui envoie à sa sœur Marie-Antoinette des gravures représentant des religieuses décapuchonnées essayant des modes nouvelles et des moines défroqués se faisant friser. Nous avons le roi du Danemark, qui a commencé par être le bourreau de son médecin Struensee et qui, philosophe précoce, disait à 17 ans « C'est monsieur de Voltaire qui m'a fait homme et qui m'a appris à penser ». Nous avons l'impératrice Catherine, qui fait de si grands pas en philosophie, tout en démembrant la Pologne, bien entendu, que Voltaire lui écrivait « Diderot, d'Alembert et moi, nous vous dressons des autels ». Nous avons la reine de Suède, nous avons enfin beaucoup de princes de l'Empire et de toute l'Allemagne. Il ne vous reste plus qu'à convertir le pape, mon cher maître, et comme je pense que rien ne vous est impossible, j'espère que vous y arriverez. Ah, quant à celui-là, ce sera difficile. Je sors de ses griffes il y a 6 mois. J'étais au château Saint-Ange comme il y a 3 mois, et vous étiez à la Bastille. Bah, et les Transtévérins ont-ils aussi renversé le château Saint-Ange comme le peuple du faubourg Saint-Antoine a renversé la Bastille? Non, mon cher docteur, le peuple romain n'en est pas encore là. Oh, soyez tranquille, cela viendra un jour. La papauté aura ses 5 et 6 octobre, et sous ce rapport-là, Versailles et le Vatican se donneront la main. Mais je croyais qu'une fois entré au château Saint-Ange, on n'en sortait pas. Bah, et Benvenuto Cellini. Vous vous êtes donc fait comme lui une paire d'ailes, et nouvel Icare, vous êtes-vous envolé par-dessus le Tibre? C'eût été fort difficile, attendu que j'étais logé, pour plus grande précaution évangélique, dans un cachot très profond et très noir. Enfin, vous en êtes sorti. Vous le voyez, puisque me voilà. Vous avez, à force d'or, corrompu votre geôlier. J'avais du malheur, j'étais tombé sur un geôlier incorruptible. Incorruptible, diable. Oui, mais par bonheur, il n'était pas immortel. Le hasard, plus croyant que moi, dirait la Providence, fit qu'il mourut le lendemain à son 3e refus de m'ouvrir les portes de la prison. Il mourut subitement. Oui. Ah, il fallut le remplacer. On le remplaça. Et celui-là n'était pas incorruptible. Celui-là, le jour même de son entrée en fonction, en m'apportant mon souper, me dit « Mangez bien, prenez des forces, car nous aurons du chemin à faire cette nuit. » Par Dieu, le brave homme ne mentait pas. La même nuit, nous crevâmes chacun 3 chevaux et nous fîmes 100 000. Et que dit le gouvernement quand il s'aperçut de votre fuite? Il ne dit rien. Il revêtit le cadavre de l'autre geôlier, qui n'était pas encore inhumé, des habits que j'avais laissés. Il lui tira un coup de pistolet au beau milieu du visage, il laissa tomber le pistolet à côté de lui, déclara que, m'étant procuré une arme, il ne savait comment, je m'étais brûlé la cervelle, fit constater ma mort et enterrer le geôlier sous mon nom, de sorte que je suis bel et bien trépassé, mon cher Gilbert, que j'aurais beau dire que je suis vivant, on me répondrait par mon acte de décès et l'on me prouverait que je suis mort. Mais on n'aura pas besoin de me prouver cela, il m'allait assez bien pour le moment de disparaître de ce monde. J'ai donc fait un plongeon jusqu'au sombre bord, comme dit l'illustre abbé de Lille, et j'ai reparu sous un autre nom. Et comment vous appelez-vous, que je ne commette pas d'indiscrétion? Mais je m'appelle le baron Zanon, je suis banquier génois, j'escompte les valeurs des princes. Bon papier, n'est-ce pas, dans le genre de celui de monsieur le cardinal de Rouen. Mais, par bonheur, dans mes prêts, ce n'est pas sur l'intérêt que je retire. À propos, avez-vous besoin d'argent, mon cher Gilbert? Vous savez que mon cœur et ma bourse, aujourd'hui comme toujours, sont à votre service. Merci. Oh, vous croyez me gêner, peut-être, parce que vous m'avez rencontré sous un simple costume d'ouvrier. Oh, ne vous préoccupez pas de cela, c'est un de mes déguisements. Vous savez mes idées sur la vie, c'est un long carnaval où l'on est plus ou moins masqué. En tout cas, tenez, mon cher Gilbert, si vous avez jamais besoin d'argent, voici dans ce secrétaire ma caisse particulière. Vous entendez, la grande caisse est à Paris, Saint-Claude, au Marais. Si donc vous avez besoin d'argent, que j'y sois ou que je n'y sois pas, vous entrerez. Je vous montrerai comment ouvrir ma petite porte. Vous pousserez ce ressort. Tenez, voici comment on le pousse. Et vous trouverez là toujours après 1 000 000. Cagliostro poussa le ressort, le devant du secrétaire s'abaissa de lui-même et mit au jour un abat d'or et plusieurs liasses de billets caisses. « Vous êtes en vérité un homme prodigieux, » dit en riant Gilbert, « mais vous le savez, avec mes 20 000 livres de rente, je suis plus riche que le roi. Et maintenant, ne craignez-vous point d'être inquiété à Paris ?» Moi, à cause de l'affaire du collier, allons donc, il n'oserait, dans l'état où sont les esprits, je n'aurais qu'un mot à dire pour faire une émeute. Vous oubliez que je suis un peu l'ami de tout ce qui est populaire, de Lafayette, de Monsieur Necker, du comte de Mirabeau, de vous-même. Et qu'êtes-vous venu y faire à Paris? Qui sait ce que vous avez été faire aux États-Unis, peut-être, une république? Gilbert secoua la tête. « La France n'a point l'esprit républicain, dit-il. Nous lui en ferons un autre, voilà tout. Le roi résistera. C'est possible. La noblesse prendra les armes. C'est probable. Mais alors que ferez-vous? Alors nous ne ferons pas une république, nous ferons une révolution. Gilbert laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Si nous en arrivons là, Joseph, ce sera terrible, dit-il. Terrible, oui, si nous rencontrons sur notre route beaucoup d'hommes de votre force, Gilbert. Oh, je ne suis pas fort, mon ami, dit Gilbert, je suis honnête, voilà tout. Hélas, c'est bien pis. Aussi, voilà pourquoi je voudrais vous convaincre, Gilbert. Je suis convaincu que vous nous empêcherez de faire notre œuvre, ou du moins que nous vous arrêterons en chemin. Vous êtes fou, Gilbert. Vous ne comprenez pas la mission de la France. La France est le cerveau du monde. Il faut que la France pense et agisse librement pour que le monde agisse comme elle pensera librement aussi. Savez-vous ce qui a renversé la Bastille, Gilbert? C'est le peuple. Vous ne m'entendez pas, vous prenez les faits pour la cause. Pendant 500 ans, mon ami, on a renfermé à la Bastille des comtes, des seigneurs, des princes, et la Bastille est restée debout. Un jour, un roi insensé eut l'idée de renfermer la pensée. La pensée à qui il faut l'espace, l'étendue, l'infini. La pensée a fait éclater la Bastille, et le peuple est entré par la brèche. C'est vrai, murmura Gilbert. Vous rappelez-vous ce qu'écrivait Voltaire à Monsieur de Chauvelin le 2 mars 1764, c'est-à-dire voilà à peu près 26 ans, dites toujours. Voltaire écrivait « Tout ce que je vois jette les semences d'une révolution qui arrivera immanquablement et dont je n'aurai pas le plaisir d'être témoin. Les Français arrivent tard à tout, mais ils arrivent. La lumière est tellement répandue de proche en proche qu'on éclatera à la première occasion, et alors ce sera un beau tapage. Les jeunes gens sont bien heureux, ils verront de belles choses. » Et que dites-vous du tapage d'hier et d'aujourd'hui, hein? Terrible. Et que dites-vous des choses que vous avez vues? Effroyable. Eh bien, vous n'êtes qu'au commencement, Gilbert. Prophète de malheur! Mais tenez, j'étais il y a 3 jours avec un médecin de beaucoup de mérite, un philanthrope. Savez-vous à quoi il s'occupe dans ce moment-ci? Il cherche un remède à quelque grande maladie réputée incurable. Ah bien oui, il cherche à guérir non pas de la mort, mais de la vie. Que voulez-vous dire? Je veux dire, épigramme à part, qu'il trouve, ayant la peste, le choléra, la fièvre jaune, la petite vérole, les apoplexies foudroyantes, 500 et quelques maladies réputées mortelles, 1000 ou 1200 qui peuvent le devenir quand elles sont bien soignées, je veux dire qu'ayant le canon, le fusil, l'épée, le sabre, le poignard, l'eau, le feu, la chute du haut des toits, la potence, la roue, il trouve qu'il n'y a pas encore assez moyen de sortir de la vie quand il n'y a qu'un pour y entrer, et il invente en ce moment-ci une machine ingénieuse, ma foi, dont il compte faire hommage à la nation, pour mettre à mort 50, 60, 80 personnes en moins d'une heure. Eh bien, mon cher Gilbert, croyez-vous que lorsqu'un médecin aussi distingué, un philanthrope aussi humain que le docteur Guillotin s'occupe d'une pareille machine, il ne faille pas reconnaître que le besoin d'une pareille machine se faisait sentir? D'autant plus que je la connaissais, cette machine, d'autant plus que ce n'était pas une chose nouvelle, mais seulement ignorée. Et la preuve, c'est qu'un jour, je me trouvais chez le baron de Tavernay. Et, par Dieu, vous devez vous souvenir de cela, car vous y étiez aussi. Mais alors, vous n'aviez des yeux que pour une petite fille nommée Nicole. Mais la preuve, c'est que la reine étant venue là par hasard, elle n'était encore que dauphine, ou plutôt, elle n'était pas dauphine. La preuve, enfin, c'est que je lui fis voir cette machine dans une carafe et que la chose lui fit si grand peur qu'elle jeta un cri et perdit connaissance. Eh bien, mon cher, cette machine qui était encore dans les limbes à cette époque, si vous voulez la voir fonctionner, un jour on l'essayera. Ce jour-là, je vous ferai prévenir, et ou vous serez aveugle, ou vous reconnaîtrez le doigt de la Providence, qui pense qu'un moment viendra où le bourreau aura trop de besogne, si l'on s'en tient aux moyens connus, et qui en invente un nouveau pour qu'il puisse se tirer d'affaire. Comte, comte, vous étiez plus consolant que cela en Amérique. Je le crois, pardieu, j'étais au milieu d'un peuple qui se lève, et je suis au milieu d'une société qui finit. Tout marche à la tombe dans notre monde vieilli, noblesse et royauté, et cette tombe est un abîme. Oh, je vous abandonne la noblesse, mon cher comte, ou plutôt la noblesse s'est abandonnée elle-même dans la fameuse nuit du 4 août, mais sauvons la royauté, c'est le palladium de la nation. Ah, que voilà de grands mots, mon cher Gilbert. Est-ce que le palladium a sauvé Troie? Sauvons la royauté. Croyez-vous que ce soit chose facile de sauver la royauté avec un pareil roi? Mais enfin, c'est le descendant d'une grande race. Oui, d'une race d'aigles qui finit par des perroquets. Pour que des utopistes comme vous puissent sauver la royauté, mon cher Gilbert, il faudrait d'abord que la royauté fît quelque effort pour se sauver elle-même. Voyons, en conscience, vous avez vu Louis XVI, vous le voyez souvent, vous n'êtes pas homme à voir sans étudier. Eh bien, franchement, dites, la royauté peut-elle vivre, représentée par un pareil roi? Est-ce là l'idée que vous vous faites d'un porte-sceptre? Croyez-vous que Charlemagne, Saint-Louis, Philippe Auguste, François Ier, Henri IV et Louis XIV avaient ces chairs molles, ces lèvres pendantes, cette atonie dans les yeux, ce doute dans la démarche? Non, c'était des hommes, ceux-là. Il y avait de la sève, du sang, de la vie sous leur manteau royal. Ils ne s'étaient pas encore abâtardis par la transmission d'un seul principe. C'est que la notion médicale la plus simple, ces hommes à courte vue l'ont négligée. Pour conserver les espèces animales et même végétales dans une longue jeunesse et dans une constante vigueur, la nature a inquiété elle-même le croisement des races et le mélange des familles. De même que la greffe dans le règne végétal est le principe conservateur de la bonté et de la beauté des espèces, ainsi, chez l'homme, le mariage entre parents trop proches est une cause de décadence des individus. La nature souffre, languit et dégénère lorsque plusieurs générations se reproduisent avec le même sang. La nature est, au contraire, vivée, régénérée et renforcée quand un principe prolifique, étranger et nouveau est introduit dans la conception. Voyez quels sont les héros qui fondent les grandes races et quels sont les hommes faibles qui les terminent. Voyez Henri III, le dernier des Valois. Voyez Gaston, le dernier des Médicis. Voyez le cardinal d'York, le dernier des Stuarts. Voyez Charles VI, le dernier des Habsbourg. Eh bien, cette cause première de la dégénérescence des races, le mariage dans les familles, qui se fait sentir dans toutes les maisons dont nous venons de parler, est plus sensible encore dans la maison de Bourbon que dans aucune autre. Ainsi, en remontant de Louis XV à Henri IV et à Marie de Médicis, Henri IV se trouve 5 fois le trisaïeul de Louis XV et Marie de Médicis 5 fois sa trisaïeule. Ainsi, en remontant à Philippe III d'Espagne et à Marguerite d'Autriche, Philippe III est 3 fois son trisaïeul, et Marguerite d'Autriche est 3 fois sa trisaïeule. J'ai compté cela, moi, qui n'ai rien à faire qu'à compter. Sur 32 trisaïeuls et trisaïeules de Louis XV, on trouve 6 personnes de la maison de Bourbon, 5 personnes de la maison de Médicis, 11 de la maison d'Autriche-Habsbourg, 3 de la maison de Savoie, 3 de la maison des Stuarts et une princesse danoise. Soumettez le meilleur chien et le meilleur cheval de sang à se creuser, à la 4e génération, vous aurez un barbet et une rosse. Comment diable voulez-vous donc que nous résistions, nous qui ne sommes que des hommes? Que dites-vous de mon calcul, docteur, vous qui êtes mathématicien? Je dis, cher sorcier, fit Gilbert en se levant et en reprenant son chapeau, je dis que votre calcul m'effraie et me fait d'autant plus penser que ma place est près du roi. Gilbert fit quelques pas vers la porte. Cagliostro l'arrêta. Écoutez, Gilbert, lui dit-il, vous savez si je vous aime, vous savez si, pour vous épargner une douleur, je suis capable de m'exposer moi-même à 1000 douleurs. Eh bien, croyez-moi, un conseil. Lequel? Que le roi se sauve, que le roi quitte la France pendant qu'il en est encore temps. Dans 3 mois, dans 1 an, dans 6 mois peut-être, il sera trop tard. Comte, dit Gilbert, conseilleriez-vous à un soldat d'abandonner son poste parce qu'il y aurait du danger à y rester? Si ce soldat était tellement pris, enveloppé, serré, désarmé qu'il ne pût se défendre, si surtout sa vie exposée compromettrait la vie d'un 500 000 d'hommes, oui, je lui dirais de fuir. Et vous-même, Gilbert, vous le direz au roi. Le roi voudra vous écouter alors, mais il sera trop tard. N'attendez donc pas à demain, dites-le-lui aujourd'hui. N'attendez pas ce soir, dites-le-lui dans 1 heure. Comte, vous savez que je suis de l'école fataliste. Arrive que pourra, et tant que j'aurai un pouvoir quelconque sur le roi restera en France et je resterai auprès du roi. Adieu, comte, nous nous reverrons dans le combat et peut-être dormirons-nous côte à côte sur le champ de bataille. Allons, murmura Cagliostro, il ne sera donc pas dit que l'homme, si intelligent qu'il soit, ne saura jamais échapper à son mauvais destin. Je vous avais cherché pour vous dire ce que je vous ai dit. Vous l'avez entendu, comme la prédiction de Cassandre, la mienne est inutile. Adieu. Voyons franchement, comte, dit Gilbert, s'arrêtant sur le seuil du salon et regardant fixement Cagliostro, avez-vous ici, comme en Amérique, cette prétention de me faire accroire que vous lisez l'avenir des hommes sur leur figure? Gilbert, dit Cagliostro, aussi sûrement que tu lis au ciel le chemin que décrivent les astres, tandis que le commun des hommes les croit immobiles ou errant au hasard. Ah, eh bien, quelqu'un frappe à la porte. C'est vrai. Dites-moi le sort de celui qui frappe à cette porte, quel qu'il soit. Dites-moi de quelle mort il doit mourir et quand il mourra. Soit, dit Cagliostro, allons ouvrir nous-mêmes. Gilbert s'avança vers l'extrémité du corridor dont nous avons parlé, avec un battement de cœur qu'il ne pouvait réprimer, quoiqu'il se dit tout bas qu'il était absurde à lui de prendre au sérieux ce charlatanisme. La porte s'ouvrit. Un homme de tournure distinguée, haut de taille et dont la figure était empreinte d'une forte expression de volonté, parut sur le seuil et jeta sur Gilbert un regard rapide qui n'était pas exempt d'inquiétude. « Bonjour, marquis, » dit Cagliostro. « Bonjour, Aaron, » répondit celui-ci. Puis, comme Cagliostro s'aperçut que le regard du nouveau venu se portait sur Gilbert, « Marquis, » dit-il, « monsieur le docteur Gilbert est un de mes amis. » « Mon cher Gilbert, monsieur le marquis de Favras, un de mes clients. » Les deux hommes se saluèrent. Et puis, s'adressant à l'étranger, « Marquis, » reprit Cagliostro, « veuillez passer au salon et m'y attendre un instant. Dans 5 secondes, je suis à vous. » Le marquis salua une seconde fois et, passant devant les deux hommes, disparut. « Eh bien, » demanda Gilbert, « voulez-vous savoir de quelle mort mourra le marquis ? Ne vous êtes-vous pas engagé à me le dire ?» Cagliostro sourit d'un singulier sourire, puis, après s'être penché pour voir si on ne l'écoutait pas, « Avez-vous jamais vu pendre un gentilhomme ? » dit-il. « Non. » « Eh bien, comme c'est un spectacle curieux, trouvez-vous sur la place de Grève le jour où l'on pendra le marquis de Favras. » Et puis, conduisant Gilbert à la porte de la rue, « Tenez, dit-il, quand vous voudrez venir chez moi sans sonner, sans être vu et sans voir un autre que moi, poussez ce bouton de droite à gauche et de bas en haut, ainsi. Adieu, excusez-moi, il ne faut pas faire attendre ceux qui n'ont pas un long temps à vivre. » Et il sortit, laissant Gilbert étourdi de cette assurance qui pouvait exciter son étonnement, mais non vaincre son incrédulité. Pendant ce temps, le roi, la reine et famille royale continuaient leur chemin vers Paris. La marche était si lente, retardée comme elle l'était, par ces gardes du corps marchant à pied, par ces poissards de cuirassés montés sur leurs chevaux, par ces hommes et par ces femmes de la halle, à cheval sur des canons enrubannés, par ces 100 voitures de députés, par ces 200 ou 300 voitures de grains et de farine prises à Versailles et couvertes du feuillage jaunisse de l'automne, que ce fut à 6 heures seulement que le carrosse royal, qui contenait tant de douleurs, tant de haine, tant de passion et tant d'innocence, arriva à la barrière. Pendant la route, le jeune prince avait eu faim et avait demandé à manger. La reine alors avait regardé autour d'elle. Rien n'était plus facile que de se procurer un peu de pain pour le dauphin, chaque homme du peuple portant un pain au bout de sa baïonnette. Elle chercha des yeux Gilbert. Gilbert, comme on le sait, avait suivi Cagliostro. Si Gilbert eût été là, la reine n'eût point hésité à lui demander un morceau de pain, mais la reine ne voulut pas faire une pareille demande à l'un de ces hommes du peuple qu'elle avait en horreur, de sorte que, pressant le dauphin sur sa poitrine, « Mon enfant, lui dit-elle en pleurant, nous n'avons pas de pain, attends à ce soir, et à ce soir, nous en aurons peut-être. » Le dauphin étendit sa petite main vers les hommes qui portaient ses pains au bout de leur baïonnette. « Mais ces gens-là en ont, » dit-il. « Oui, mon enfant, mais ce pain-là est à eux et non à nous, et ils sont venus le chercher à Versailles parce que, disent-ils, ils n'en avaient plus à Paris depuis 3 jours. »« Depuis 3 jours ?» dit l'enfant. « Ils n'ont donc pas mangé depuis 3 jours, maman ?» Ordinairement, l'étiquette voulait que le dauphin appelât sa mère « madame », mais le pauvre enfant avait faim comme un simple enfant pauvre et, ayant faim, il appelait sa mère « maman ». « Non, mon fils, » répondit la reine, En ce cas, répondit l'enfant avec un soupir, ils doivent avoir bien faim. Et, cessant de se plaindre, il essaya de dormir. Pauvre enfant royal qui, plus d'une fois, avant de mourir, devait, comme il venait de le faire, demander inutilement du pain. À la barrière, on s'arrêta de nouveau, cette fois non plus pour se reposer, mais pour célébrer l'arrivée. Et cette arrivée devait être célébrée par des chants et par des danses. Halte étrange, presque aussi menaçante dans la joie que les autres l'avaient été dans la terreur. En effet, les poissardes descendirent de leurs chevaux, c'est-à-dire des chevaux des gardes, en attachant aux arçons de la selle les sabres et les carabines. Les dames et les forts de la halle descendirent de leurs canons qui apparurent dans leur terrible nudité. Alors on forma une ronde qui enveloppa le carrosse du roi en le séparant de la garde nationale et des députés, emblème formidable de ce qui devait arriver plus tard. Cette ronde, à bonne intention et pour montrer sa joie, la famille royale chantait, criait, hurlait, les femmes embrassant les hommes faisant sauter les femmes comme dans les cyniques kermesses de Teniers. Cela se passait à la nuit presque tombée, par un jour sombre et pluvieux, de sorte que la ronde, éclairée seulement par des mèches de canon et des pièces d'artillerie, prenait dans ses nuances d'ombre et de lumière des teintes fantastiques presque infernales. Après une demi-heure à peu près de cris, de clameurs, de chants, de danses dans la boue, le cortège poussa un immense hurrah. Tout ce qui avait un fusil chargé, hommes, femmes, enfants, le déchargea en l'air sans s'inquiéter des balles qui retombèrent au bout d'un instant en clapotant dans les flaques d'eau comme une grêle pesante. Le dauphin et sa sœur pleuraient. Ils avaient si grand peur qu'ils n'avaient plus faim. On suivit la ligne des quais et l'on arriva à la place de l'hôtel de ville. Là, un carré de troupes était formé pour empêcher toute autre voiture que celle du roi, toute autre personne que celle appartenant à la famille royale ou à l'Assemblée nationale d'entrer à l'hôtel de ville. La reine aperçut alors Weber, son valet de chambre et de confiance, son frère de lait, un Autrichien qui l'avait suivi de Vienne, lequel faisait tous ses efforts pour passer par-dessus la consigne et entrer avec elle à l'hôtel de ville. Elle l'appela, Weber accourut. Voyant à Versailles que la garde nationale avait les honneurs de la journée, Weber, pour se donner une importance grâce à laquelle il put être utile à la reine, Weber s'était habillé en garde nationale, et à son costume de simple volontaire avait ajouté les décorations d'officier d'état-major. L'écuyer cavalcadour de la reine lui avait prêté un cheval. Pour point éveiller des soupçons, tout au long de la route, il s'était tenu à l'écart, avec l'intention, bien entendu, de se rapprocher si la reine avait besoin de lui. Reconnu et appelé par la reine, il accourut donc aussitôt. « Pourquoi essayes-tu de forcer la consigne ?» Weber lui demanda la reine, qui avait conservé l'habitude de le tutoyer. « Eh, madame, pour être près de votre majesté !» « Tu me seras très inutile à l'hôtel de ville, Weber, dit la reine, alors que tu peux m'être utile ailleurs. »« Où cela, madame ?»« Aux Tuileries, mon cher Weber, aux Tuileries où personne ne nous attend, et où, si tu nous précèdes, nous trouverons un lit, une chambre et un morceau de pain. »« Ah, dit le roi, voilà une excellente idée que vous avez là, madame. » La reine avait parlé en allemand, et le roi, qui comprenait l'allemand mais ne le parlait pas, avait répondu en anglais. Le peuple aussi avait entendu, mais il n'avait pas compris. Cette langue étrangère, pour laquelle il avait une horreur instinctive, fit pousser autour de la voiture un murmure qui menaçait de passer au rugissement lorsque le carré s'ouvrit devant la voiture de la reine et se referma derrière elle. Bailly, l'une des trois popularités de l'époque, Bailly, que nous avons déjà vu apparaître au premier voyage du roi, cette fois où les baïonnettes, les fusils et les bouches de canon disparaissaient sous des bouquets de fleurs oubliés à ce second voyage, Bailly attendait le roi et la reine au pied d'un trône improvisé pour les recevoir. Trône mal affermi, mal joint, craquant sous le velours qui le recouvrait, véritable trône de circonstance. Le maire de Paris dit à peu près au roi à ce second voyage ce qu'il lui avait dit au premier. Le roi répondit « C'est toujours avec plaisir et confiance que je viens au milieu des habitants de ma bonne ville de Paris. » Le roi avait parlé bas, d'une voix éteinte par la fatigue et la faim. Pailly répéta la phrase tout haut afin que chacun pût l'entendre. Seulement, soit volontairement, soit involontairement, il oublia les deux mots de « et confiance ». La reine s'en aperçut. Son amertume était heureuse de trouver un passage par où se faire jour. « Pardon, monsieur le maire, dit-elle assez haut, pour que ceux qui l'entouraient ne perdissent pas un mot de sa phrase, ou vous avez mal entendu, ou votre mémoire est courte. » « Plaît-il, madame ?» balbutia Bailly, en tournant vers la reine cet œil d'astronome qui voyait si bien au ciel et qui voyait si mal sur la terre. Toute révolution chez nous a son astronome, et sur la route de cet astronome creuse traîtreusement le puits où il doit tomber. La reine reprit, « Le roi a dit, monsieur, que c'était toujours avec plaisir et confiance qu'il venait au milieu des habitants de sa bonne ville de Paris. » Or, comme on peut douter qu'il y vienne avec plaisir, il faut que l'on sache au moins qu'il y vient avec confiance. Puis elle monta les 3 degrés du trône et s'y assit près du roi pour écouter les discours des électeurs. Pendant ce temps, Weber, devant le cheval duquel la foule s'ouvrait, grâce à son uniforme d'officier d'état-major, parvenait jusqu'au palais des Tuileries. Depuis longtemps, ce logis royal des Tuileries, comme on l'appelait autrefois, logis bâti par Catherine de Médicis, un instant habité par elle, puis abandonné par Charles IX, par Henri III, par Henri IV, par Louis XIII pour le Louvre, par Louis XIV, par Louis XV et par Louis XVI pour Versailles, n'était plus qu'une succursale des palais royaux où habitaient des gens de la cour, mais où jamais peut-être ni le roi ni la reine n'avaient mis les pieds. Weber visita les appartements, et connaissant les habitudes du roi et de la reine, il choisit celui qu'habitait la comtesse de Lamarque et celui de messieurs les maréchaux de Noailles et de Mouchy. L'occupation de cet appartement, qu'abandonna aussitôt madame de Lamarque, eut son bon côté. C'est qu'il se trouva tout prêt pour recevoir la reine avec ses meubles, son linge, ses rideaux et ses tapis que Weber acheta. Vers 10 heures, on entendit le bruit de la voiture de leur majesté qui rentrait. Tout était prêt, et en courant au-devant de ses augustes maîtres, Weber s'écria « Servez le roi !» Le roi, la reine, madame royale, le dauphin, madame Élisabeth et André entrèrent. Monsieur de Provence était retourné au château de Luxembourg. Le roi jeta avec inquiétude les yeux de tous côtés, mais entrant dans le salon, il vit par une porte entr'ouverte et donnant sur la galerie le souper préparé au bout de cette galerie. En même temps, la porte s'ouvrit et un huissier parut, disant « Le roi est servi !»« Oh, que ce Weber est un homme de ressources !» dit le roi avec une exclamation de joie. « Madame, vous lui direz de ma part que je suis très content de lui. »« Je n'y manquerai pas, sire, » dit la reine. Et avec un soupir qui répondait à l'exclamation du roi, elle entra dans la salle à manger. Les couverts du roi, de la reine, de madame royale, du dauphin et de madame Élisabeth étaient mis. Il n'y avait point de couvert pour André. Le roi, pressé par la faim, n'avait point remarqué cette omission qui du reste n'avait rien de blessant, puisqu'elle était faite selon les lois de la plus stricte étiquette. Mais la reine, à qui rien échappait, s'en aperçut au premier coup d'œil. « Le roi permettra que la comtesse de Charny soupe avec nous, » dit la reine. « N'est-ce pas, sire ?»« Comment donc ?» s'écria le roi. « Aujourd'hui, nous dînons en famille, et la comtesse est de la famille. »« Sire, » dit la comtesse, « est-ce un ordre que le roi donne ?» Le roi regarda la comtesse avec étonnement. « Non, madame, » dit-il, « c'est une prière que le roi vous fait. »« En ce cas, » dit la comtesse, « je prie le roi de m'excuser, mais je n'ai pas faim. » « Comment vous n'avez pas faim ?» s'écria le roi, qui ne comprenait pas que l'on n'eût point faim à 10 heures du soir, après une journée aussi fatigante, et quand on n'avait pas mangé depuis 10 heures du matin, heure à laquelle on avait si mal mangé. « Non, sire, » dit André. « Ni moi, » dit la reine. « Ni moi, » dit madame Élisabeth. « Oh, vous avez tort, madame, » dit le roi. « Du bon état de l'estomac dépend le bon état du reste du corps, et même de l'esprit. Il y a là-dessus une fable de Titli, imitée par Shakespeare et par La Fontaine, que je vous invite à méditer. »« nous savons, monsieur, dit la reine, c'est une fable qui fut dite un jour de révolution par le vieux Ménénius au peuple romain. Ce jour-là, le peuple romain était révolté, comme l'est aujourd'hui le peuple français. Vous avez donc raison, sire, oui, cette fable est tout à fait de circonstance. Eh bien, dit le roi, en tendant son assiette pour qu'on lui servît une seconde fois du potage, sa similitude historique vous décide-t-elle, comtesse? Non, sire, et je suis vraiment honteuse de dire à votre majesté que lorsque je voudrais lui obéir, je ne le pourrais pas. Vous avez tort, comtesse, ce potage est vraiment parfait. Pourquoi est-ce la première fois qu'on m'en sert un pareil? C'est parce que vous avez un cuisinier nouveau, sire, celui de la comtesse de Lamarque, dont nous occupons les appartements. Oh, je le retiens pour mon service et désire qu'il fasse partie de ma maison. Oh, ce Weber est un homme véritablement miraculeux, madame. Oui, murmura tristement la reine, quel malheur qu'on ne puisse pas le faire ministre. Le roi n'entendit point ou ne voulut point entendre. Seulement, comme il vit André debout et très pâle, tandis que la reine et madame Élisabeth, quoique elles ne mangeassent pas plus qu'André, étaient assises à sa table, il se tourna vers la comtesse de Charny. « Madame, dit-il, si vous n'avez pas faim, vous ne direz pas que vous n'êtes pas fatiguée. Si vous refusez de manger, vous ne refuserez point de dormir. » Et puis à la reine, « Madame, dit-il, donnez congé, vous prie, à madame la comtesse de Charny, à défaut de la nourriture, le sommeil. » Et se tournant du côté de son service, « J'espère qu'il n'en est pas du lit de madame la comtesse de Charny comme il en est de son couvert, et qu'on n'a pas oublié de lui préparer une chambre. » Oh, « sire, dit André, comment voulez-vous que l'on se soit occupé de moi dans un pareil trouble? Un fauteuil suffira. » « Ah, non pas, dit le roi, vous avez déjà peu ou point dormi la nuit passée, il faut que vous dormiez bien cette nuit, la reine a non seulement besoin de ses forces, mais encore de celles de ses amis. » Pendant ce temps, le valet-de-pied, qui avait été s'informer, rentra. « Monsieur Weber, dit-il, sachant la grande faveur dont la reine honore madame la comtesse, a cru entrer dans les intentions de sa majesté en faisant réserver à madame la comtesse une chambre attenante à celle de la reine. » La reine tressaillit, car elle songea que s'il n'y avait qu'une chambre pour madame la comtesse, il n'y avait par conséquent qu'une chambre pour la comtesse et pour le comte. André vit le frisson qui passait dans les veines de la reine. Aucune des sensations qui atteignaient une de ces deux femmes n'échappait à l'autre. « Pour cette nuit, mais pour cette nuit seulement, dit-elle, j'accepterai, madame. L'appartement de sa majesté est trop restreint pour que je veuille une chambre prise aux dépens de sa commodité. Il y aura bien, dans les combles du château, un petit coin pour moi. » La reine balbutia quelques mots inintelligibles. Comtesse, dit le roi, vous avez raison, on cherchera tout cela demain et l'on vous logera du mieux qu'il sera possible. » La comtesse salua respectueusement le roi, la reine et madame Élisabeth et sortit précédée par un valet de pied. Le roi la suivit un instant des yeux, tenant sa fourchette suspendue à la hauteur de sa bouche. « C'est en vérité une charmante créature que cette femme, dit-il, que monsieur le comte de Charny est heureux d'avoir trouvé un pareil phénix à la cour. » La reine se renversa sur le dos de son fauteuil pour cacher sa pâleur, non pas au roi qui ne l'eût point vue, mais à madame Élisabeth qui s'en fut effrayée. Elle était près de se trouver mal. Aussi, dès que les enfants eurent mangé, la reine demanda-t-elle au roi la permission de rentrer dans sa chambre. « Bien volontiers, madame, dit le roi, car vous devez être fatiguée. Seulement, comme il est impossible que vous n'ayez pas faim d'ici à demain, faites-vous préparer un encas. » La reine, sans lui répondre, sortit, emmenant les deux enfants. Le roi resta à table pour achever son souper. Madame Élisabeth, dont la vulgarité même de Louis XVI en certaines occasions ne pouvait altérer le dévouement, demeura auprès du roi pour lui rendre les petits soins qui échappent aux domestiques les mieux dressés. La reine, une fois dans sa chambre, respira. Aucune de ses femmes ne l'avait suivie, la reine leur ayant ordonné de ne point quitter Versailles qu'elles n'eussent reçu un avis. Elle s'occupa donc de chercher un grand canapé ou un grand fauteuil pour elle-même, comptant coucher ses deux enfants dans son lit. Le petit dauphin dormait déjà. À peine le pauvre enfant avait-il apaisé sa faim que le sommeil l'avait pris. Madame Royale ne dormait pas, et s'il l'eût fallu, il n'eût pas dormi de la nuit. Il y avait beaucoup de la reine dans Madame Royale. Aussi le petit prince déposé dans un fauteuil, Madame Royale et la reine se mirent-elles en quête des ressources qu'elles pouvaient trouver. La reine s'approcha d'abord d'une porte. Elle allait l'ouvrir lorsque, de l'autre côté de cette porte, elle entendit un léger bruit. Elle l'écouta et entendit un second soupir. Elle se baissa à la hauteur de la serrure et, par le trou de la clé, aperçut André, à genoux sur une chaise basse et priant. Elle recula sur la pointe du pied et regardant toujours la porte avec une étrange expression de douleur. En face de cette porte, il y en avait une autre. La reine l'ouvrit et se trouva dans une chambre doucement chauffée et éclairée par une veilleuse, à la lueur de laquelle, avec un tressaillement de joie, elle aperçut deux lits frais et blancs comme deux autels. Alors son cœur se dégonfla, une larme vint mouiller, sa paupière aride et brûlée. « Oh, Weber, Weber » murmura-t-elle, « la reine a dit au roi qu'il était malheureux qu'on ne pût pas faire de toi un ministre, mais la reine te dit à toi que tu mérites mieux que cela. » Puis, comme le petit dauphin dormait, elle voulut commencer par mettre au lit Madame Royale, mais celle-ci, avec le respect qu'elle avait toujours eu pour sa mère, lui demanda la permission de l'aider, afin qu'elle-même à son tour puisse mettre plus promptement au lit. La reine sourit tristement. Sa fille pensait qu'elle pourrait dormir après une pareille nuit d'angoisse, après une pareille journée d'humiliation. Elle voulut la laisser dans cette douce croyance. On commença donc par coucher Monsieur le Dauphin. Puis, Madame Royale, selon son habitude, se mit à genoux et fit sa prière au pied de son lit. La reine attendait. « Il me semble que ta prière dure plus longtemps que d'habitude, Thérèse, » dit la reine à la jeune princesse. « C'est que mon pauvre frère s'est endormi sans songer à faire la sienne, pauvre enfant, » dit Madame Royale, « et comme chaque soir il était accoutumé à prier pour vous et pour le roi, je dis sa petite prière après la mienne, afin qu'il ne manque rien à ce que nous devons demander à Dieu. » La reine prit Madame Royale et la pressa sur son cœur. Cette source de larmes, déjà ouverte par les soins du bon Weber et ravivée par la pitié de Madame Royale, s'élança de ses yeux vives et abondantes, et les pleurs profondément tristes mais sans amertume coulèrent le long de ses joues. Elle resta près du lit de Madame Royale, debout et immobile comme l'ange de la maternité, jusqu'au moment où elle vit se fermer les yeux de la jeune princesse, jusqu'au moment où elle sentit se détendre, relâchée par le sommeil, les muscles de ses mains qui serraient les siennes avec un si tendre et si profond amour filial. Alors elle posa doucement près d'elle les mains de sa fille, les recouvrit du drap afin qu'elle ne souffrît pas du froid si la chambre se rafraîchissait pendant la nuit. Puis, déposant sur le front endormi de la future martyre un baiser léger comme un souffle et doux comme un rêve, elle rentra dans sa chambre. Cette chambre était éclairée par un candélabre portant quatre bougies. Ce candélabre était posé sur une table, cette table était couverte d'un tapis rouge. La reine alla s'asseoir devant cette table et, les yeux fixes, elle laissa tomber sa tête entre ses deux poings fermés, sans voir autre chose que ce tapis rouge étendu devant elle. Deux ou trois fois, elle secoua machinalement la tête à ce sang en reflet. Il lui semblait que ses yeux s'injectaient de sang, que ses tempes battaient de fièvre et que ses oreilles bruissaient. Puis, comme dans un brouillard mouvant, toute sa vie repassait devant elle. Elle se rappelait qu'elle était née le 2 novembre 1755, jour du tremblement de terre de Lisbonne qui avait tué plus de 50 000 personnes et renversé 200 églises. Elle se rappelait que, dans la première chambre où elle avait couché à Strasbourg, la tapisserie représentait le massacre des innocents et que cette même nuit, à la lueur vacillante de la veilleuse, il lui avait semblé que le sang coulait des plaies de tous ces pauvres enfants, tandis que la figure des massacreurs prenait une expression si terrible qu'épouvantée, elle avait appelé au secours et avait ordonné qu'on partît avant l'aube naissante de cette ville qui devait lui laisser un si terrible souvenir de la première nuit qu'elle avait passée en France. Elle se rappelait qu'en continuant son chemin vers Paris, elle s'était arrêtée dans la maison du baron de Tavernay, que là, elle avait rencontré pour la première fois ce misérable Cagliostro qui avait eu depuis, lors de l'affaire du collier, une si terrible influence sur sa destinée, et que, dans cette halte si présente à sa mémoire qu'il lui semblait que cet événement fût de la veille, quoique depuis 20 ans se fussent écoulés, il lui avait, sur ces instances, fait voir dans une cafe quelque chose de monstrueux, une machine de mort terrible et inconnue, et au bas de cette machine une tête roulant, détachée du corps, qui n'était autre que la sienne. Elle se rappelait que, lorsque Madame Lebrun avait fait son charmant portrait de jeune femme, belle, heureuse encore, elle lui avait, par mégarde sans doute, mais présage terrible, donné la pose que Madame Henriette d'Angleterre, femme de Charles Ier, a dans son portrait. Elle se rappelait que, le premier jour, où, pour la première fois, elle entra à Versailles, lorsque, descendue de sa voiture, elle mettait le pied sur le funèbre pavage de cette cour de marbre où, la veille, elle avait vu couler tant de sang, un terrible coup de tonnerre avait retenti, précédant la chute de la foudre qui avait sillonné l'air à sa gauche et d'une si effrayante façon que monsieur le maréchal de Richelieu, qui n'était point facile à effrayer cependant, avait secoué la tête en disant « mauvais présage ». Elle se rappelait tout cela, et voyant tourbillonner devant ses yeux cette vapeur rougeâtre qui lui semblait devenue de plus en plus épaisse. Cette espèce d'assombrissement était si sensible que la reine leva les yeux jusqu'au candélabre et aperçut que sans motif aucun, une des bougies venait de s'éteindre. Elle tressaillit, la bougie fumait encore, rien ne donnait une cause à cette extinction. Tandis qu'elle regardait le candélabre avec étonnement, il lui sembla que la bougie voisine de la bougie éteinte pâlissait lentement et que, peu à peu, sa flamme de blanche devenait rouge et de rouge bleuâtre. Puis la flamme s'amincit et s'allongea, puis elle sembla quitter sa mèche et s'envoler, et puis enfin elle se balança un instant comme agitée par une haleine invisible et s'éteignit. La reine avait regardé l'agonie de ses bougies avec des yeux hagards, sa poitrine haletant de plus en plus, ses mains étendues se rapprochant davantage du candélabre au fur et à mesure que la bougie allait s'éteignant. Enfin, quand elle s'était éteinte, elle avait fermé les yeux, s'était renversée à l'arrière de son fauteuil et avait passé ses mains sur son front, qu'elle avait trouvé ruisselant de sueur. Elle était restée ainsi, les yeux fermés, pendant 10 minutes à peu près, et quand elle les avait rouverts, elle s'était aperçue avec terreur que la lumière de la troisième bougie commençait à s'altérer comme celle des deux premières. Marie-Antoinette crut d'abord que c'était un rêve et qu'elle était sous le poids de quelque hallucination fatale. Elle essaya de se lever, mais il lui sembla qu'elle était enchaînée sur son fauteuil. Elle essaya d'appeler Madame Royale, que 10 minutes auparavant elle n'eût pas réveillée pour une seconde couronne, mais la voix s'éteignit dans sa gorge. Elle essaya de tourner la tête, mais sa tête resta fixe et immobile, comme si cette troisième bougie mourante eût attiré à elle son regard et son haleine. Enfin, de même que la seconde avait changé de couleur, la troisième bougie prit des tons différents, pâlit, s'allongea, flotta de droite à gauche, puis de gauche à droite, et s'éteignit. Alors l'épouvante fit faire un tel effort à la reine qu'elle sentit que la parole lui revenait. À l'aide de cette parole, elle voulut se rendre le courage qui lui manquait. « Je ne m'inquiète pas, dit-elle tout haut, de ce qui vient d'arriver à ces trois bougies, mais si la quatrième s'éteint comme les trois autres, oh malheur, malheur à moi !» Tout à coup, sans passer par les préparations qu'avaient suivi les autres, sans que la flamme changeât de couleur, sans qu'elle parût ni s'allonger ni se balancer, comme si l'aile de la mort l'eût touchée en passant, la quatrième bougie s'éteignit. La reine jeta un cri terrible, se leva, fit 2 tours sur elle-même, battant l'air et l'obscurité de ses bras, et tomba évanouie. Au moment où le bruit de son corps retentissait sur le parquet, la porte de communication s'ouvrit et André, vêtu de son peignoir de batiste, parut sur le seuil, blanche et silencieuse comme une ombre. Elle s'arrêta un instant, comme si, au milieu de cette obscurité, elle voyait passer dans la nuit une sorte de vapeur. Elle l'écouta comme si elle avait entendu s'agiter dans l'air les plis d'un suaire. Et puis, abaissant son regard, elle aperçut la reine atterrée, étendue, sans connaissance. Elle fit un pas en arrière, comme si son premier mouvement eût été de s'éloigner, mais aussitôt, se commandant à elle-même, sans dire une parole, sans demander, demande qui au reste eût été bien inutile, sans demander à la reine ce qu'elle l'avait, elle la souleva entre ses bras et, avec une force dont on l'eût cru incapable, guidée seulement par les deux bougies qui éclairaient sa chambre et dont la lueur se prolongeait à travers la porte jusque dans la chambre de la reine, elle la porta sur le lit. Et puis, tirant un flacon de sel de sa poche, elle l'approcha des narines de Marie-Antoinette. Malgré l'efficacité de ces sels, l'évanouissement de Marie-Antoinette était si profond que ce ne fut qu'au bout de 10 minutes qu'elle poussa un soupir. À ce soupir, qui annonçait le retour de la souveraine à la vie, André fut encore tenté de s'éloigner. Mais cette fois, comme la première, le sentiment de son devoir si puissant sur elle la retint. Elle retira seulement son bras de dessous la tête de Marie-Antoinette qu'elle avait soulevée pour qu'aucune goutte de ce vinaigre corrosif dans lequel les sels étaient baignés ne pût couler sur le visage ou sur la poitrine de la reine. Le même mouvement lui fit éloigner le bras qui tenait le flacon. Mais alors la tête retomba sur l'oreiller. Le flacon éloigné, la reine sembla plongée dans un évanouissement plus profond encore que celui dont elle avait paru vouloir sortir. André, toujours froide, presque immobile, la souleva de nouveau, approcha d'elle une seconde fois le flacon d'aisselle qui produisit son effet. Un léger frissonnement courut par tout le corps de la reine. Elle soupira, son œil s'ouvrit. Elle rappela ses pensées, se souvint de l'horrible présage, et, sentant une femme près d'elle, elle lui jeta les deux bras autour du cou en lui criant « Oh, défendez-moi, sauvez-moi !»« Votre Majesté n'a pas besoin qu'on la défende, étant au milieu de ses amis, » répondit André, « mais elle me paraît sauvée maintenant de l'évanouissement dans lequel elle est tombée. » « La comtesse de Charny !» s'écria la reine, lâchant André qu'elle tenait embrassé et que, dans un premier mouvement, elle repoussa presque. Ni ce mouvement, ni le sentiment qu'il avait inspiré n'échappèrent à André. Mais, sur le premier moment, elle resta immobile jusqu'à l'impassibilité. Puis, faisant un pas en arrière, « La reine ordonne-t-elle que je l'aide à se dévêtir ?» demanda-t-elle. « Non, comtesse, merci, » répondit la reine d'une voix altérée, « je me déferai seule. Rentrez chez vous, vous devez avoir besoin de dormir. »« Je vais rentrer chez moi, non pas pour dormir, madame, » répondit André, « mais pour veiller sur le sommeil de votre majesté. » Et après avoir salué respectueusement la reine, elle se retira chez elle de ce pas lent et solennel qui serait celui des statues, si les statues marchaient.